France Inter.fr.
CO2 Mon Amour, avec Initiative, solution de financement des projets associatifs, sportifs et scolaires, à découvrir sur initiative.fr.
Ça se reconnaît, un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un caouet.
Mon amour.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être.
Denis Chessou.
C'est une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Mais non, ils sont pas tous comme ça au Festival du Vent, mais un petit peu quand même. Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui va essayer de prendre le temps de ne pas aller trop vite avec Stéphane Giannichini, avec Simon Guérini et Didier Bottier de Frequenza Mora. Merci à eux d'assurer donc cette liaison avec nous. Valérie Ayestaraï du Pays Basque réalise cette émission. Stéphane Combe d'Argenton-sur-Creuse est aussi avec nous. Et donc, dans quelques instants, va débuter cette émission qui va être consacrée à l'environnement en Corse. Alors, regardez, écoutez, c'est une émission en direct de la France d'en bas. Oui, en bas sur la carte à Calvi. Nous sommes presque dans la chanson de Jacques Higelin, Face à la citadelle. Donc des rencontres écologiques, des musiciens qui jouent pour les vagues, des plasticiens, des chanteurs, des recycleurs d'idées, un quatuor à cordes, des marchands de savon bio, du droit humain, du droit social, un raton laveur, ou plus sûrement d'ailleurs des cochons au milieu des routes, de l'éducation en direction des gamins. Bref, le mélange des genres, c'est cela, le Festival du Vent. Un truc d'ailleurs qui semble un petit peu durable, hein, parce qu'il fête ses 20 ans. Sous la houlette inspirée de Karina Oru, sa directrice, et de Serge Oru, son créateur. Et il y a 20 ans, eh bien, en Corse comme ailleurs, vous savez, on se fichait pas mal des questions écologiques. Ah là, c'était le bon temps. On était peinards, on vivait hors sol. Quand on disait qu'il y avait des limites à la planète ou bien aux ressources naturelles, on était des empêcheurs de polluer, de réchauffer, de penser en rond. Quand on disait que l'environnement n'était qu'un sous-système de l'économie, on était de furieuses ayatollahs. Mais aujourd'hui, il faut s'adapter au langage dominant. Et la seule idéologie qui compte, vous le savez, c'est la notation. Aussi donnerais-je un triple A pour le charme de la baie de Calvi, un double C à Christophe Colomb, qui paraît-il est né par là-bas. D'ailleurs, c'est le vent qui porta ses caravelles jusqu'aux Amériques. Un triple A pour la beauté entêtante de cette île enveloppée d'odeurs de cas d'eucalyptus. Un quadruple S pour le soleil qui, fin octobre, fait semblant quand même de jouer à l'été, hein, et les prolongations. Alors ensuite, c'est vrai qu'à partir de 16h30, hop, il s'enfile dans ses pantoufles et son maillot pour plonger dans la mer. Mais en revanche, on va peut-être un peu dégrader la note pour le mitage régulier des paysages de Corse, pour une loi littorale qui semble appliquée à la carte ou bien simplement quand on a le temps, pour les décharges sauvages un peu trop nombreuses. Je voyais, ça n'a pas forcément de rapport, mais donc à l'entrée de la ville, un panneau annonçant un nouveau beau programme immobilier. Ça s'appelle les rivages de Calvi. Vous remplacez le I de rivage par un A. Et ça me semble un peu plus près parfois de la réalité, mais je dois être effectivement mauvaise langue. Sur un des stands de ce festival est aussi inscrit « Peut-on encore rêver ?» Et dans ces périodes qui sont scellées au pragmatisme, à la rigueur, à la gestion, après 30 ans de qui veut gagner des milliards, transformé maintenant en qui va économiser des millions, eh bien le rêve a encore une chance, car si j'ai regardé ce matin, il n'était pas coté au Dow Jones. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors aussi pollinisé bon, par ce vent, c'est donc à vous, auditeurs de France Inter, amis corse et aussi du continent qui avait fait le déplacement, c'est vous qui allez porter cette métamorphose, ces graines d'un monde nouveau qui n'est pas encore sorti de sa chrysalide mais qu'on doit semer à tous les vents. Et pour votre chaleur humaine à tous, amis ici de Calvi à la Balagne, eh bien vous méritez un triple A. Bonjour à tous. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu passer, mais nous sommes 7 milliards d'individus. Bah, c'est arrivé, donc là, vraiment, en cette fin de mois. Et ça va être un petit peu notre actualité avec Yann Astruz-Bertrand, qui est aussi parrain de ce festival. Un ouvrage qui s'appelle « Vivre ensemble, 7 milliards d'humains ». Et puis, je souhaitais, Yann, que vous soyez là, parce que votre réflexion sur ces 7 milliards d'individus, qu'est-ce que c'est avec la fondation Good Planet que vous animez ?
Aujourd'hui, les chiffres donnent le tournis. Moi, quand je suis né, j'ai 65 ans, on était un peu plus de 2 milliards. Oui. Aujourd'hui, on va être 7 milliards. Dans ma vie d'homme, j'aurais vu la population du monde tripler.
Et en l'an 2000, on était 6 milliards, donc ça a été très très vite. Là.
Il arrive tous les jours 260 000 personnes à dîner en plus. Oui. Les chiffres donnent le tournis. Il y a deux siècles, il y avait deux villes, plus d'1 million d'habitants. Aujourd'hui, elles sont 431. Vraiment, et pourtant, je ne suis pas pessimiste. Pourquoi ? Parce que à la Fondation Good Planet, on a lancé ce projet 6 milliards d'autres, où on va autour du monde et on pose des questions à tout le monde sur le sens de la vie. Et là, on vient de faire 4 films sur la pauvreté, la santé, l'éducation, le droit des femmes dans les pays en voie de développement, donc les gens qui sont pauvres, les gens qui souffrent, et les réponses sont éblouissante. Je vous conseille d'aller sur le site 7 milliards d'autres pour les regarder. Ça passe lundi sur la chaîne parlementaire qui fait 7 heures en continu de ces interviews. Et c'est pour ça que je ne suis pas pessimiste. Et puis,
j'ai vu, Yann, pardonnez-moi, mais j'ai vu aussi un chiffre très intéressant sur ce qu'on appelle la biomasse.
Oui, alors, il y a une dernière étude de Caltech, université américaine, qui fait froid dans le dos. Quand on parle de la biomasse des vertébrés, les vertébrés, c'est quoi ? C'est nous, c'est les mammifères, les animaux domestiques, les animaux sauvages, c'est les reptiles, les batraciens et les oiseaux. Écoutez bien ce chiffre. La biomasse, donc le poids des animaux sur la Terre. On ne parle pas de la mer, on ne sait pas ce qu'il y a. Écoutez bien ce chiffre. Aujourd'hui, 98% de la biomasse des vertébrés sur la Terre, c'est l'homme et ses animaux domestiques. C'est-à-dire que tous les animaux sauvages du monde, mammifères, je parle bien des mammifères, les éléphants, les hérissons, les souris, les oiseaux, ne représentent plus que 2% de la biomasse du monde. L'homme est une espèce tellement intelligente, tellement brillante, on se développe d'une façon incroyable et on consomme la Terre. Alors, c'est vrai que je ne suis pas pessimiste parce que je vous rends une petite histoire. On est en train de faire un film sur l'eau.
Et vous rentrez du Congo. Donc
exactement.
Du Congo. Qu'est-ce que vous avez rencontré là ?
Là, on a fait un film sur l'eau pour le Forum mondial de l'eau. Oui. Survoler cette rivière qui est inouïe. C'est la deuxième rivière du monde après l'Amazon, dans un bassin forestier inouï. Et tous les gens se servent des bateaux. Donc on voit sur le fleuve des barges avec des milliers de gens qui sont comme des camps de réfugiés qui vivent dedans. Ce n'est pas ça qui m'a impressionné. En partant, j'ai été voir un orphelinat. Je suis sorti de là en pleurant. Pourquoi ? 50 gosses. Avec une sœur d'une soixantaine d'années africaine qui est pratiquement aveugle et ne voit plus rien. J'ai vu 50 enfants. Certains ont le sida, certains sont malades. Et j'ai vu la solidarité entre ces enfants. Quand je suis arrivé le premier jour, une petite fille de 12 ans faisait l'école à deux petits garçons. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Elle dit, je fais l'école à mes copains parce que comme ils ont le sida, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. Donc la petite fille recopiait tous les jours à l'école, ce qu'elle faisait pour le donner aux enfants. Je vois arriver un petit garçon dans la rue avec deux petits jeunes et la bonne sœur me dit, voilà, ils arrivent de l'hôpital. Le petit garçon, il a 12 ans, il avait emmené les deux petits garçons qui avaient 7 et 8 ans, qui avaient le sida pour prendre les médicaments à l'hôpital. Et j'ai vu cette espèce de solidarité entre les enfants qui était extrêmement joyeuse, qui était formidable, émue aux larmes. Ils m'ont fait une petite liste que je devais ramener de France.
Oui.
Premier en haut de la liste, un dictionnaire d'anglais. Deuxième, un dictionnaire de français. Après des livres français à lire, comme quoi ces gosses qui n'ont rien, qui vivent dans la pauvreté maximum, ils ont compris que c'est par l'éducation qu'ils allaient s'en sortir. Et voilà, c'était pour ça que je pense qu'aujourd'hui, même avec 7 milliards d'habitants, il est beaucoup trop tard pour être pessimiste. Ces enfants m'ont rendu très, très optimiste.
Voilà,
allez voir ça, les films sur 7 milliards. Allez voir les films et je pense que vous aussi, vous aimerez un peu plus les gens après avoir vu ces interviews, comme toute l'équipe de 7 milliards d'autres qui travaille sur ce projet depuis déjà 6 ans grâce à la BNP, il faut le dire, parce que souvent les banques n'ont pas la cote.
Ben, je vous en prie, mais ouais. oui,
et là, aujourd'hui, on a fait 7000 interviews de gens et vous allez voir, les réponses des gens sont brillantes. Après avoir écouté ces gens, vous aimerez un peu plus les autres.
Vivre ensemble, 7 milliards d'humains, Good Planet, et puis de Fred Pierce aussi, l'apocalypse démographique n'aura pas lieu. Donc, même si on rentre tout à fait dans un monde inconnu, c'est vrai que là il y a des frictions écologiques. Vous avez effectivement toute une frange qui va vous dire mais ce n'est absolument pas tenable, ce n'est pas possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le mode de vie actuel que l'on a diffusé avec nos paraboles, ça ne tient pas. Et puis d'autres personnes qui se disent qu'on va pouvoir peut-être réorienter le bateau. Enfin,
je crois en l'intelligence des 7 milliards d'habitants sur Terre.
À condition que ce
soit et leur générosité.
Et intelligence collective. Parce que
et puis aussi beaucoup plus d'amour, tout simplement.
Voilà. Bah, écoutez, merci à vous, Yann Arthus Bertrand. Et on va passer. Là, vous voyez, c'était notre actualité avec 7 milliards d'individus. Maintenant, on va passer véritablement en Corse.
Denis Chessou.
Mais oui, mais tu es. Beau, ça. Et en plus, ça doit être un beau chien de garde, non ?
Il a ses têtes.
On se demande pourquoi les gens achètent à prix d'or des chiens de race. Rien de vous, hein. Un bon bâtard, hein, mon pépère.
Un, c'est une mémère. Et deux, c'est une chienne corse, monsieur.
Oui, c'est normal, on est en Corse, alors.
Je veux dire une chienne de race corse. Un corsino.
Un corsino. Tiens donc.
CO2, mon amour.
Ça ne rigole pas. Et non, ça ne rigole pas. Et pourtant, on va parler donc de l'environnement en Corse. Bon, là, c'est évidemment un petit sourire. Vous l'aviez compris, c'était donc l'enquête corse avec un Corse d'adoption. Je crois qu'on a reconnu M. Christian Clavier. Oui, c'est bien cela. L'environnement en Corse, vaste sujet. On va en parler avec trois personnes, avec Gérard Boncristiani pour l'association Libre Accès aux plages et à la défense du littoral. Donc, on évoquera avec vous, Gérard, la loi littoral. Nous aurons tout à l'heure Maria Giulicelli, qui est conseillère exécutive à la collectivité territoriale de Corse pour parler de déchets et d'énergie. Et avec vous, cher Antoine Orsini, vous êtes professeur à l'université de Corte en écologie. Vous êtes un spécialiste des eaux douces. Vous connaissez cela. C'est vrai que vous êtes tout à fait unanimement reconnu dans ce pays donc, qui est la Corse. Parlez-nous de cette situation, on va dire, qui est contrastée. Quand on veut commencer à voir l'environnement en Corse, certes, la beauté, ok, carte postale, c'est là, ça fait vivre le tourisme et plein de gens. Mais qu'est-ce que l'on peut dire quand même d'autre?
Oui, Monsieur Chessou, vous avez commencé par des notations. Vous avez distribué du triple A, du triple C, du triple S.
Oui, j'adore. Oui.
Moi, je resterai plutôt sur une appréciation, on va dire, peut mieux faire. En effet, le constat, la Corse, île de beauté. Nous avons 3,5 millions de touristes, 7 millions de passagers en 2010.
300 000 habitants à l'année, mais 3 millions, vous dites, de touristes et 7 millions de passagers.
7 millions de passagers en 2010. Alors la qualité, la beauté, la diversité des paysages, on ne va pas vous faire la carte postale. 80 sites Natura 2000, c'est quand même 20% du territoire. C'est énorme, hein, au niveau de la France. 23 sites classés, 5 opérations grands sites. Natura 2000 en mer, on l'oublie, c'est 70 000 hectares de théoriquement protégés. C'est l'île la plus boisée de Méditerranée, avec un taux de boisement de 47%. C'est énorme quand on voit que la France continentale, c'est 35%.
C'est oui, c'est ça. Et on va prendre un département qui est extrêmement boisé, qui est le Jura. Ça doit être de l'ordre de mémoire de 52-53%. Donc vous, 47.
Bon, il y a le revers de la médaille. Alors je dirais qu'aujourd'hui, il y a ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. Alors ce qui se voit... Au niveau des paysages, on voit la surfréquentation et surtout l'absence de gestion de tous ces sites remarquables que j'ai cités tout à l'heure. Le problème du mitage dans le rural, c'est important. Le littoral, la pression humaine toujours plus importante. L'urbanisation et l'occupation sauvage des plages et des arrière-plages. Là aussi, j'ouvre une petite parenthèse et pour égratigner un peu les services de l'État, c'est souvent la cause d'une délimitation incomplète du DPM, c'est-à-dire du domaine public maritime. Hein, on a nos paillotes. Ce qui se voit aussi, ce sont les déchets. Il y a toujours des décharges sauvages. Il y a les déchets du BTP, hein, donc bâtiments et travaux publics.
Et là, c'est énorme, mais que ce soit sur le continent ou bien en Corse, c'est les plus gros volumes.
On a 200 000 tonnes de déchets oui. par an, 85% ce sont des ordures ménagères, et au passage, 25% sont apportés par les touristes. Bon, mais 75%, oui. ce sont les nôtres, les déchets, bien sûr. Problème des huiles de vidange aujourd'hui qu'on retrouve dans la nature. Sur la forêt, hein, on parlait de l'île la plus boisée, mais aujourd'hui, le problème des incendies, c'est toujours un problème gravissime. Hein. Il y avait 200 mises à feu par an
en 2010.
Ouais. Hein, il y en avait 550 quand même en 2000. Hein. En période de sécheresse en 2003, il y a eu 20 000 hectares de brûlés. Hein. Donc ça, c'était en 2003. Alors ça, c'est tout ce qu'on voit. Mais moi, je m'inquiète aussi de ce qu'on ne voit pas, hein, l'impact. Alors, l'impact au niveau de l'eau. On a une dégradation de la qualité de l'eau, que ce soit les eaux de surface, que ce soit les eaux souterraines. Alors, c'est vrai qu'on commence à avoir des nitrates dans les eaux souterraines. Alors, on est loin des problèmes...
On ne va pas être dans la Beauce, là.
Voilà, ou d'accord. En Bretagne, hein, puisque oui. sur le continent...
Mais ça veut dire que vous avez aussi de la culture intensive
C'est une évidence. Aujourd'hui, l'utilisation d'engrais, de pesticides, c'est quelque chose d'important. Donc, de gros impacts. Qualité de l'air. Je dirais ce qui ne se voit pas, mais ce qui se sent. Avec les rejets des centrales thermiques du Vasio de Lucial, par exemple.
Ça, on va y revenir, mais vous avez donc deux grosses centrales thermiques, on ne peut pas dire qu'elles soient exactement neuves, et qui donc fonctionnent au fioul lourd, me semble-t-il.
Tout à fait. Alors, et après, pour couronner le tout, je dirais que les deux départements de Corse ont chacun leur plaie d'Égypte. La Haute-Corse a le problème de l'amiante environnementale. Et je parle bien d'amiante environnementale naturelle.
Ça,
je ne parle pas de la mine de Canaries.
Voilà, de Canaries. Qui est donc,
et la Corse du Sud a le problème du radon, parce qu'en pleine Corse granitique.
Du granit, hein.
Donc, voilà, j'ai commencé par l'appréciation, hein, je vais le redire, de peut mieux faire.
Mais alors, Antoine Orsini, au-delà de tout ça, donc il y a aussi donc l'aspect extrêmement important qui est celui du littoral. Alors, d'ailleurs, vous l'avez commencé à en parler, mais vous avez laissé Gérard Boncristiani nous en dire un petit peu plus. Gérard Boncristiani est le président de l'association Libre Accès aux plages et à la défense du littoral. Que représente aujourd'hui, on va dire encore la côte sauvage, je dirais en pourcentage. La Corse, c'est un peu plus de 8000 km², mais en pourcentage de littoral qui n'est pas encore atteint par une urbanisation plus ou moins démente, qu'est-ce que ça représente ?
D'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à Radio France, par l'intermédiaire de France Inter, d'être venu en Corse, de s'être déplacé. Et comme je dis souvent, comme il me plaît à le dire, la Corse, je ne l'habite pas, elle m'habite. Et donc, c'est pour ça que je la défends. J'essaie de la défendre avec toutes mes tripes et toute ma passion. Mais il est très difficile. Il est très difficile chez nous, parce que chez nous, ailleurs aussi, mais surtout chez nous, par notre proximité, notre cousinage, nos copinages, qui font que les gens n'ont pas l'esprit citoyen. On manque de citoyenneté. C'est-à-dire qu'en Corse, on ne trouve pas le mot citoyen. Et donc, nous avons d'énormes difficultés à faire respecter une loi qui pourtant a été votée à l'unanimité des deux chambres, nationale, Sénat et Assemblée nationale.
C'est en 1986 et en fait cette loi n'a jamais été remise en cause. Après c'est l'interprétation qu'on en fait.
Tout à fait, cette loi n'a jamais été remise en cause, mais il faut se rappeler qu'en Corse, en 1999, à travers l'article 12, on voulait adapter la loi littorale à la sauce locale. Ça, il faut le dire aussi.
Et alors, ça veut dire pas la sauce locale. Moi, je suis pas.
La sauce locale, c'est-à-dire qu'on voulait débarrasser les sites remarquables et les espaces proches du rivage qui interdisaient la loi, qui vidait de tout son contenu la loi littorale. C'est-à-dire qu'on aurait pu construire les pieds dans l'eau. Oui. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
On va rappeler, pour nos amis qui nous écoutent, que cette loi de 1986, donc, au départ, consiste à protéger et aménager à long terme le littoral français, mais qui a un fort volet de protection du patrimoine et des paysages. Et entre autres, l'interdiction de toute nouvelle construction et installation à moins de 100 mètres du rivage en dehors des zones urbanisées. On ne va pas faire toute la loi, mais je veux dire que ça, c'est important d'avoir en tête.
Mais la loi, elle est basée sur trois triptyques. Les sites remarquables, les espèces qui les peuplent, l'urbanisation autour des hameaux existants, c'est-à-dire peu dévoreuse d'espace et peu coûteuse pour le contribuable, parce qu'il faut savoir que quand il y a du mitage, il faut transporter tous les dévoriers réseaux divers, ce qui coûte très cher aux contribuables.
C'est énorme, oui.
Et en même temps, le libre accès pour tous à la mer. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le littoral propriété, s'approprier et se privatiser pour seulement quelques privilégiés qui achètent des villas, qui construisent des villas en bord de mer.
Et donc après qui interdisent l'accès.
Et qui interdisent l'accès à la mer. Et l'accès, non seulement l'accès vertical, c'est-à-dire de la voie publique à la mer, mais en même temps l'accès horizontal, l'ancien sentier douanier appelé sentier littoral. C'est-à-dire qu'en Corse, le sentier littoral est embryonnaire. Il doit y avoir une trentaine de kilomètres en tout dans toute la Corse, ou peut-être un peu plus, alors qu'il y a des arrêtés préfectoraux qui disent qu'il faut laisser un accès à la mer tous les 500 mètres.
Alors, on va voir donc la suite, ce que l'on fait, quel est le rôle aussi du conservateur du littoral. Antoine Orsini, sur ce thème.
Oui, je veux revenir sur l'histoire de la bande des 100 mètres, qui est quelque chose de fondamental dans la loi, y compris pour l'accès. Je m'associe à ce que vient de dire mon collègue. Mais aujourd'hui, avec le changement climatique et ses conséquences, je crois qu'il faudra passer à la bande des 200 mètres.
Oui.
Et je le dis sérieusement.
Donc, érosion, quoi.
Voilà, tout à fait. Il y a non seulement l'érosion marine, mais il y a aussi la fréquence et l'amplitude des tempêtes. Aujourd'hui, on sait très bien que les tempêtes en Corse, je vais parler de la Corse, jusqu'à présent, quand on avait des vagues de 4 mètres, ça paraissait important. Nous avons eu une vague à 8 mètres et les prévisionnistes prévoient des vagues à 10 mètres. Donc, vague à 10 mètres, il faudra construire, à mon avis, peut-être au-delà des 200 mètres. Donc, c'est quelque chose d'important. Il y a eu des études sur les zones qui vont être inondées. Et je ne parle pas de 2100. Je ne suis pas membre du GIEC et je ne veux pas parler, me projeter à 2100. Je parle de ce qui s'est passé à Bastia il y a 2-3 ans et ce qui va se passer dans les mois à venir où on aura des tempêtes importantes. Et c'est sur le littoral qu'on a des constructions importantes aussi.
Alors, nous allons donc revenir revenir évidemment sur ce thème qui est absolument majeur avec des enjeux, on imagine bien, financiers qui sont extrêmement importants. Je vous propose de partir avec Thomas Fersen et puis on revient évidemment à Calvi au Festival du Vent.
Ça lui donnait pas l'air d'un ange, avec son œil sous un bandeau et sa gueule en lame de couteau. Sous son vêtement doux Jésus, tout son corps était recousu. Et quand il remontait ses manches, les femmes devenaient toutes blanches. Il menait une vie de cigale, il jouait de la scie musicale. Il trouvait qu'en fermant les yeux, son instrument sonnait mieux, le balafré. Sa mère croyait de bonne foi qu'il s'en allait couper du bois. C'est pas qu'il fût je m'en foutiste, il avait une âme d'artiste dans un cabaret de Pigalle. Il jouait de la scie musicale. Il trouvait qu'en fermant les yeux, son instrument sonnait mieux, le balafré. Il aimait la vie de théâtre, il aimait les stucs et les plâtres, les filles habillées en lapin plutôt que l'odeur du sapin. Et à la pause syndicale, il trouvait qu'en fermant les yeux, son instrument sonnait mieux que balafré. On retrouva au parc Monceau une bourgeoise coupée en morceaux. Le balafré passait par là, il avait sa scie sous son bras. De bonne foi qu'il s'en allait couper du bois. C'est pas qu'il fût je m'en foutiste, il avait une âme d'artiste. Il menait une vie de cigale, il jouait de la scie musicale. Il trouvait qu'en fermant les yeux, son instrument sonnait mieux, le balafré.
C'était Thomas Fersen sur France Inter, le balafré, en direct donc du Festival du Vent, donc du Festivento avec vous, donc très nombreux ici à la mer. On est à, je suis pas sûr qu'on aurait pu construire d'ailleurs si ça se trouve aujourd'hui, hein, parce que là on est quand même, oui, enfin les 100 mètres doivent y être. Nous avons le train. Alors maintenant on peut plus parler du train à grande vibration parce que ça a été nouveau. Là il y a eu plein de choses très très nouvelles, donc bravo, dont acte. Maintenant le train va un petit peu plus vite, donc il a dû gagner 10 km/h quand même, et donc c'est très très bien. Il y en a qu'un, hein, vous savez, il part d'ici de Calvi, il va soit à Bastia, à Ponteleccia, donc hop, il y a une coupure, il redescend sur Ajaccio. Et donc nous poursuivons cet environnement en Corse, et nous avons en ligne Maria Guidicelli, qui est conseillère exécutive à la collectivité territoriale de Corse. Pour faire simple, c'est la région, mais ça s'appelle la collectivité donc territoriale de Corse. Et Maria Guidicelli, vous êtes déléguée aux déchets, à l'énergie et aussi au PADU, car le PADU, qu'est-ce que c'est? On va voir ça, hein. C'est un plan de développement aussi en Corse, de développement durable qui a fait quand même couler pas mal d'encre. Bonjour Maria Guidicelli. Ça se trouve, vous nous entendez?
C'est parfait.
Et oh, bah, c'est très bien. Voilà.
Je suis dans ma montagne, mais vous voyez, dans les montagnes de Corse, tout est possible. Donc je vous reçois 5 sur 5.
Oh, c'est... Alors, donc vous connaissez Antoine Orsini, bien évidemment. Vous connaissez Gérard Boncristiani aussi. Ils sont donc avec nous. Parlez-nous maintenant, s'il vous plaît, de cette énergie en Corse. On a vu que l'énergie donc, fossile à partir donc, de ce fioul lourd, alors, je ne sais pas si c'est 40-50%, mais c'est important. On a de l'électricité qui est importée. Et puis on a quand même des énergies renouvelables. Alors, on voit, moi, d'année en année, je vois un peu plus de panneaux photovoltaïques. C'est peut-être pas si simple que ça non plus. Donc, racontez-nous, où en est-on avec l'énergie en Corse?
Alors d'abord, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que la Corse est aujourd'hui la plus carbonée de la moyenne des régions françaises, hein, en moyenne. Donc nous avons intérêt à agir pour diminuer véritablement notre dépendance aux produits pétroliers. Et pour vous donner un petit peu un repère, les approvisionnements pétroliers extérieurs représentent aujourd'hui 80% de la consommation d'énergie. Et vous vous en doutez, l'effet mécanique, c'est que notre ratio d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à la moyenne française de 8,5 tonnes équivalent CO2 par habitant chez nous, contre 6,5 tonnes en moyenne française, en moyenne nationale. Donc vous l'avez compris, l'enjeu pour la Corse, il est énorme. Il est bien de diminuer sa dépendance aux produits pétroliers et, je dirais, par voie de conséquence, c'est d'aller vers, on va dire, une autonomie énergétique. Et l'autonomie énergétique, elle passe nécessairement par le développement des énergies renouvelables. Alors là, si vous voulez, on peut distinguer, on va dire, deux types d'énergies renouvelables. Celles qui sont non fatales parce qu'elles sont stockées, et ça c'est l'hydroélectricité. On a en Corse aujourd'hui des grands barrages, 4, on a des petits barrages. Néanmoins, l'hydroélectricité...
Donc certains qui ont fait politique, hein, comme, qui ont fait vraiment polémique, comme le Rizanaise.
Hein. Et oui, parce que... fait polémique, effectivement. Le projet du Rizanaise est un projet qui date de 25 années. Il a mis 25 ans pour aboutir. Néanmoins, il va être mis en service en 2012 et il va nous apporter 50 mégawatts supplémentaires en énergie propre, en électricité propre. Alors, il est vrai que le capital environnemental de la Corse, il est précieux et il est à préserver. Mais il est vrai aussi qu'il faut utiliser ces ressources naturelles avec rationalité, bien sûr, mais il faut savoir les utiliser. Et le capital, je dirais, de l'hydroélectricité, aujourd'hui, est une perspective pour la Corse importante et intéressante parce que au plus nous irons vers ce type d'énergie, au plus nous diminuerons notre dépendance, je vous le disais, aux produits pétroliers, et je veux faire référence au fonctionnement de nos centrales thermiques.
Alors, donc, effectivement, parce que là, les centrales thermiques, là, j'ai vu qu'effectivement, qu'il y avait un débat, qu'Europe Écologie Les Verts donc, a fait une piqûre de rappel, donc pas plus tard qu'hier, sur le fait qu'il fallait passer du fioul lourd, dans un premier temps, au fioul léger, puis après, au gaz, sûrement avec un raccordement avec des méthaniers. Donc, c'est toujours d'énergie fossile, mais on va dire que c'est quand même malgré tout une amélioration. Mais lorsque l'on parle maintenant d'énergie renouvelable, le chiffre global est très intéressant. On n'est pas loin, me semble-t-il, de 25% d'énergie renouvelable. On l'entend bien, donc de l'hydroélectricité avant toute chose. L'éolien, on va passer très très vite parce que là, je crois que peu de personnes en veulent. Il y a de fortes réticences locales paysagères. Il y a aussi des pistes d'accès qui sont derrière l'éolien. Il y a des lignes qui sont non enfouies. Donc on va dire que le plus grave est sûrement à côté, même que peut-être le côté visuel. Mais parlez-nous maintenant du photovoltaïque. Quand même, le solaire, il me semble qu'il y a un petit peu de soleil chez vous, me semble-t-il. Où en est-on ?
Alors, effectivement, sur le photovoltaïque, on a d'abord, d'une manière générale, sur les énergies renouvelables, on va atteindre l'année prochaine, enfin en 2013, 25% hein, d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables. Nous avons un problème en Corse, comme dans d'autres régions, il est lié à un décret qui fait que nous ne pouvons injecter sur le réseau plus de 30% d'énergie d'origine renouvelable et fatale en particulier. Nous avons atteint, nous atteindrons très rapidement cette possibilité-là, cette capacité-là. Aujourd'hui, éolien photovoltaïque additionné représente 90 mégawatts d'énergie renouvelable. C'est la limite qui nous est autorisée par EDF.
Alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit... Non mais voilà, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire plus.
En théorie, sauf que moi je considère que cette limite, on doit la transformer en opportunité et je m'explique. Je pense qu'il faut la transformer en opportunité parce que l'avenir des énergies renouvelables, c'est le stockage. C'est-à-dire, c'est de passer de la qualité fatale à une qualité non fatale, donc capacité de stockage. Et j'en viens à votre question sur le photovoltaïque. Aujourd'hui, nous sommes en Corse en état d'expérimenter, et je le souligne parce que ça veut dire qu'on peut être un laboratoire qui demain produira un certain nombre de démonstrateurs qui pourront être ensuite développés ailleurs. La Corse la Corse fait partie intégrante du territoire national et de la planète. Et donc l'idée, c'est que nous puissions aussi, nous, par notre expérimentation, contribuer à faire avancer la réflexion en la matière. Alors, je m'explique. D'abord, nous avons un pôle de compétitivité qui nous permet d'expérimenter actuellement un stockage d'énergie photovoltaïque à partir d'une pile à hydrogène. Ça se passe à Vignoles, sur Ajaccio. C'est un projet innovant, novateur. Nous avons à l'Assemblée de Corse, par ailleurs, validé un projet de centrale thermodynamique pour être...
La thermodynamie, pour faire très simple, oui. C'est-à-dire que c'est la chaleur solaire qui fabrique de la vapeur et qui après va actionner une turbine.
C'est ça. Donc il y a le fait qu'on transforme cette énergie et qu'elle soit portée dans un fluide, que ce soit de l'eau ou autre, eh bien ça suppose, ça implique nécessairement qu'on stocke de l'énergie. Autrement dit, on n'est pas obligé d'utiliser cette énergie au moment où le soleil brille.
Alors comment on la stocke ? C'est des batteries ? C'est quoi comme système ?
C'est un fluide caloporteur, si vous voulez. Donc on transforme cette électricité, ce rayon solaire en chaleur et on le restitue ensuite avec un décalage dans le temps. Ça signifie que le problème de la Corse, c'est que, comme dans toutes les régions d'ailleurs, on utilise notre électricité au moment où le soleil se couche la plupart du temps, où les températures diminuent. Et donc, il faut décaler dans le temps et pouvoir utiliser une certaine énergie stockée. C'est le propre de ces nouvelles technologies. Alors, les piles, bien sûr, le thermodynamique, mais il ne faut pas oublier aussi, et je rejoins ça ce que disait mon ami Antoine Orsini tout à l'heure, nous avons un potentiel en biomasse, c'est-à-dire une forêt qui est effectivement riche, puisqu'il disait que le taux de boisement est le plus fort de France, et il a raison, plus de 47%. Et il faut savoir que nos arbres pourrissent sur pied, très souvent, que la forêt n'est pas exploitée. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de brûler la forêt dans des chaudières pour en faire de l'électricité.
Non, mais c'est vrai que vous avez une filière qui n'est pas organisée. On constate qu'il y a malheureusement très, très peu de scieurs aussi, donc de gens qui coupent les arbres aussi en forêt. Donc, il y a un problème quand même de non-organisation.
Hein. C'est ça. Alors, elle se structure tranquillement, tout doucement, cette filière. Moi, j'ai envie de mettre un peu d'optimisme dans tout ça, parce que de ce que nous disaient nos amis et à l'instant, et puis de ce que l'on ressent, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience, un engagement de certaines filières économiques, parce que quand même, les énergies renouvelables, ça contribue aussi à développer de l'emploi, et de l'emploi vert, et ça, les entreprises locales l'ont bien d'accord, compris, sont prêtes à jouer le jeu, et les citoyens s'invitent dans le débat, et se passionnent d'ailleurs pour ces sujets-là, et donnent leur avis.
C'est ce qu'ils font ici au Festival Ventoux. Madame Guidicelli, restez avec nous, parce que après, je pense qu'on aura un petit peu de temps, mais on va le faire en concentré pour parler donc des déchets, parce que malheureusement, vous êtes aussi un peu champion de France des décharges sauvages ici en Corse. Donc il y a deux, trois choses à dire. Peut-être sur ce thème, alors là Antoine Orsini aussi, quand on parle des panneaux photovoltaïques, très bien, mais moi j'ai vu en passant en bicyclette jeudi, qu'il y avait aussi de très belles terres agricoles sur lesquelles il y avait des panneaux photovoltaïques. Donc là il va y avoir un choix et il faut arbitrer.
Oui, bon d'abord je salue mon ami Maria Guidicelli. Et bon, concernant le photovoltaïsme, je... Tout à fait. Un beau peuple. Je suis un écologue écolo. Donc j'ai à la fois la casquette d'écologue universitaire, mais je suis aussi écolo, donc j'aime le photovoltaïsme, c'est-à-dire j'aime les énergies renouvelables. Néanmoins, il faut rester prudent parce qu'on s'aperçoit que ces fermes photovoltaïques sont installées sur les plus belles terres agricoles. Et lorsqu'on lit dans la presse que les moutons peuvent passer sous les panneaux, oui, ils peuvent passer pour se mettre à l'ombre, mais pas pour brouter de l'herbe. Donc je crois que là, il faut rester prudent et c'est pour ça que Marie a parlé d'expérimentation. Moi, je suis pour l'expérimentation, mais je ne suis pas pour la généralisation. Concernant le barrage du Rizanèse, c'est un très mauvais choix.
On explique, on est au sud effectivement de la Corse.
Très mauvais choix. Très mauvais choix parce que c'est un barrage dont la contenance est de moins de 2 millions de mètres cubes. C'est une hérésie, un impact écologique important. Il y aurait eu le même impact s'il y avait eu 25 millions de mètres cubes stockés. Alors, avec 25 millions de mètres cubes stockés, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait de l'interconnexion et on donnait de l'eau dans l'extrême sud qui manque d'eau, de l'eau pour l'irrigation, de l'eau potable. Et pourquoi pas, on aurait peut-être échangé, je ne suis pas pour la vente d'eau à la Sardaigne, on aurait pu échanger de l'eau avec les Sardes. Hein, on échange de l'électricité contre de l'eau, hein, puisqu'on a une interconnexion Sardaigne-Corse.
Ils viennent bien vous prendre des bouchons sur le chêne-liège, vous pouvez faire des échanges.
Hein. Non, mais pas que des bouchons quand même. Non, je parlais bien sûr d'électricité. électricité. Voilà.
Le courant électrique en Sardaigne, il est fait comment?
Ah voilà, ça c'est le gros problème.
Ouais, mais ça c'est faux cul.
Même, c'est avec du charbon.
Charbon. Ouais, ça c'est complètement faux cul.
C'est une évidence. Mais voilà pourquoi je suis pour les ENR. Hein, et j'étais peut-être pour un barrage du Rizanès à 25 millions de mètres cubes, qui aurait le même impact qu'un million et demi, hein, ou un million sept, je crois. Donc je crois que là c'est et on peut pas, on doit pas se tromper. On ne doit plus se tromper pour l'avenir.
Bien, écoutez, on va.
Vous avez du bois aussi.
Tout à fait, tout à fait. Là, on a beaucoup de bois. Hein,
alors l'énergie, elle est là.
Tout à fait. Je vois, à Corté, on a un réseau chaleur. Sur les 7000 habitants qu'il y a à Corté, il y en a 4000 qui ont de l'eau chaude. Et l'université et une grande surface dont je tairai la marque a aussi de la climatisation. Je crois qu'il faut venir voir ce qui se passe à Corté. Et c'est probablement comme ça qu'il faut travailler.
Avec 9% de chômage en Corse, peut-être former des sieurs pour travailler sur la filière bois.
Exactement. Exactement.
C'est du bon sens, hein.
Tout à fait.
Alors vous avez cet arbre merveilleux quand même, qui est le pin laricio que l'on connaît ici. Ça représente quoi le pin là? C'est 60% à peu près de la surface forestière ou...
Non, parce que le pin maritime a pris ouais. Pas pris le dessus, mais c'est à peu près 50%. Quoi.
Ouais. Et il y a cet oiseau aussi qui est donc
la citelle
corse,
endémique, hein,
qui est vraiment la vôtre, ouais. Qui se balade la tête en bas, on la voit, hein, qui est sur la tête en bas pour aller picorer donc les petits vers au sein de ce pin laricio. C'est une merveille. Je tiens à vous signaler hier aussi, puisqu'on parle quand même d'écologie, d'environnement, qu'il y a une excellente revue donc, qui s'appelle Stantari, qui a déjà évoqué donc, cette fameuse citelle, mais qui là parle du requin pèlerin et qui, dans son prochain numéro, Stantari, c'est Histoire naturelle et culturelle de la Corse. Ils font un excellent boulot. Cécile Breton et son équipe font vraiment un excellent boulot. Donc là, il y a un numéro consacré, entre autres, au requin pèlerin. Et puis le prochain qui sera consacré à la forêt. Moi, je vous propose de prendre un peu d'air musical, parce que c'est aussi ça, le thème. Je crois qu'il y aura... Arthur H, c'était quand? C'était ce soir ou c'était hier soir? Je ne sais plus du tout. C'est ce soir. Oui. Donc ce sera soir au Festival Ntou. Mais là, ça va être Charlie Winston que nous retrouvons grâce à Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur sur France Inter.
Hello, hello, it's you and me again. How can we pretend we've never met? Hello, hello, you might as well come in. We've been making beds for so long now. I never told you that I want you. I thought I had you out of my head. Yeah, yeah, yeah. But every time she leaves me, refusing to believe me, you're always there. And even though I don't invite you, and your presence is a pain, you always let me be just who I am, until I'm glad to bring back that refrain again. Hello, it's you and me again. How can we pretend we've never met? Ooh, hello, hello, you might as well come in. We've been shaking hands for too long now. I even tried to reconvince you, but it was just no use at all. Every time I climb inside your mind, I saw the mirror on the wall. But it's no use to pose the question, no, when the answer's never she. And then I have to face up to the facts, with saxophones and old trombones carrying me home to say hello. Alone, it's you and me again. How can we pretend we've never met? Oh, hello, alone, you might as well come in. We've been making beds for too long. Perhaps I'll take a holiday and get as far away as I can. But then I'd just be far away and just as much a lonesome man with his head in his hand. And we've never met. Ooh, hello, hello.
Charlie Winston sur France Inter. Nous sommes toujours au Festival du Vent. On va vous faire baver un petit peu parce qu'il doit faire une vingtaine de degrés. Oui, on est très bien. Vous avez la Balagne qui est en train de s'alanguir comme un gros chat, vous savez, en train de prendre le soleil. Et tout va bien. Nous parlons d'environnement, nous parlons d'écologie. Alain Baraton nous a rejoint. Je suis ravi tout plein parce que Alain est avec nous. Il va prendre le micro. Déjà, tout va bien, Alain.
Mieux serait indécent. La ville est superbe. Le paysage est grandiose. Oui. Mais j'écoutais avec beaucoup, beaucoup d'intérêt ce qui vient de se dire. Il y a un mot qui n'a pas été employé une seule fois, qui est le mot économie. Aujourd'hui, envisager de produire plus, c'est peut-être bien, mais encore faudrait-il commencer à économiser. Cette nuit, alors que vous dormiez, oui, à l'heure du juste, à 5h du matin, je contemplais de la fenêtre de ma chambre la baie de Calvi. A-t-on besoin d'éclairer les rues à 4h du matin? C'était la question que je me posais. Monsieur Orsini disait également que chaque année en Corse, 200 000 tonnes d'ordures ménagères viennent s'ajouter aux décharges naturelles ou contrôlées. 35 000 tonnes, enfin 60 000 tonnes si je tiens compte des 35%, contiennent de la nourriture qui a été jetée. Alors, commençons à produire propre et surtout, arrêtons de vouloir toujours plus, faisons mieux.
J'ai bien fait de vous donner le micro. C'est très bien, Alain Baraton, parce que donc il dépasse largement sa casquette de jardinier de Versailles et fort heureusement, il va s'inspirer aussi peut-être des végétations qui sont là présentes pour anticiper le réchauffement climatique aussi qui a lieu au-dessus de Versailles. Bah, tenez, ça nous fait une très bonne transition. Merci, cher Alain. Antoine Orsini, sur les déchets, donc qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait? Je parlais effectivement de décharge sauvage. Bon, je pense que ça s'améliore un peu, mais quand même, on peut pas exporter ces déchets comme nous, on est capable de le faire. On est sur une île, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'incinérateur, on n'en a pas voulu, donc ça s'est réglé. Donc, à la place, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, je ne veux pas trop noircir. Je ne veux pas trop noircir le tableau. Il y a quand même la mise en œuvre de la collecte sélective, hein, le tri sélectif. Je préfère parler de collecte sélective, c'est un peu plus français. Il y a quand même 19 déchetteries sur le territoire. Alors vous allez me dire, 19 déchetteries, c'est à peine 30% du territoire. Mais bon, il y a d'autres territoires français, continentaux, qui n'ont pas ces déchetteries. Donc c'était pour pas trop noircir le tableau. Néanmoins, c'est 200 000 tonnes, dont 85% d'ordures ménagères avec, vous avez raison, il reste de la nourriture dedans. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors globalement, c'est vrai que le débat sur l'incinérateur est clos. Donc il y a eu une décision politique. Donc l'incinérateur, avec on connaît les problèmes. La plupart des incinérateurs en Europe ont fermé. Je dirais que c'est pas par hasard qu'on ferme des incinérateurs. Bon, donc c'est qu'il y avait vraiment un problème. Alors aujourd'hui, la plupart des ordures ménagères, c'est de l'enfouissement. Là, on pourrait parler. Hein, je vais parler d'économie. Vous avez raison. Hein, alors d'économie au sens peut-être production d'euros. On pourrait utiliser les gaz de fermentation pour produire un peu d'électricité. C'est ça aussi l'économie. Hein. Voilà. Mais le tableau, il est noir concernant, par exemple, les déchets du bâtiment. Oui. Les déchets du bâtiment. Hein. Denis, vous faites du vélo, vous avez trouvé chaque fois dans un virage quelques blocs de quelques
très régulièrement. Donc
ça, c'est oui, un vrai problème. Autre problème, on l'évoque pas assez, les bouts de stations d'épuration. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que on met des millions d'euros pour construire une station d'épuration, dont le rôle est d'extraire des boues, hein, donc de dépolluer cette eau. Et souvent, ces boues, on les remet dans la nature. C'est pas sérieux. Donc, on aurait pu directement les envoyer dans la rivière. Hein, donc, je caricature, bien sûr. Et là, alors, il y a eu des solutions. La ville d'Ajaccio exporte sur le continent. Alors, quand on voit le coût carbone des boues, oui. Alors je crois que la solution, c'est peut-être de faire du compostage, parce qu'on a des terres agricoles, on a des forêts, parce qu'après ce compost, certes, dans certaines zones, il y a peut-être des métaux lourds, on ne peut pas les utiliser en agriculture, mais on peut les utiliser en arboriculture, par exemple. Donc, il y a des solutions. Je crois que si on réfléchit un peu, on peut déboucher sur des solutions. Il n'y a pas la solution, il n'y a pas la panacée, mais il y a plusieurs pistes.
Alors, bâtiment, moi, ça me fait une liaison. La Corse, donc, a un peuple qui entretient et qui jardine avec force et avec conviction sa langue et sa profonde culture. Est-ce que l'on est aussi précautionneux, Gérard Boncristiani, avec son littoral? On a l'impression que c'est franchement à géométrie variable, que ça que ça dérange des intérêts extrêmement puissants auxquels certains hommes politiques parfois adhèrent ou bien ferment les yeux. Donc où en est-on et pourquoi est-ce qu'on n'applique pas cette loi littorale, peut-être de la même manière, enfin, ça s'est passé aussi, disons-le, en face, c'est-à-dire sur le versant méditerranéen, sur d'autres départements, que ce soit le Var, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, etc. Donc c'est pas qu'une spécialité, on va dire, corse. Mais quand même, pourquoi effectivement cette loi n'est pas complètement respectée?
Oui, mais justement, ce qui s'est passé en face, on peut parler de la Côte d'Azur, du Languedoc-Roussillon, ou même de l'Espagne. Nous savons aujourd'hui, nous connaissons les erreurs et les horreurs qui ont été faites ailleurs. Pourquoi aujourd'hui vouloir reproduire ici ce qui s'est fait ailleurs de mauvais? Donc essayons, puisqu'il existe une loi, essayons d'appliquer les lois et les règles d'urbanisme. Nous avons un fantastique atout de développement économique. Vous parliez de développement, mais c'est un fantastique atout de développement économique. C'est la richesse de demain, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire pour ceux qui vont nous succéder. N'essayons pas de faire en une génération, puisque ça fait 40 ans, 30-40 ans, après la Côte d'Azur dans les années 50, est venu l'accord dans les années 60, où par manque d'outils de gestion du sol, c'est-à-dire les plans d'occupation des sols à l'époque, et après le plan local d'urbanisme, il faut savoir que la plupart des communes littorales en Corse ne sont pas dotées d'outils de gestion du sol, c'est-à-dire qu'on a développé anarchiquement et des passe-droits avec la complicité ou la complaisance et la complicité, même la complicité des services de l'État. C'est-à-dire qu'on a saccagé des sites merveilleux.
Hein. Mais qui l'ont fait pour avoir la paix, pour, je sais pas.
Exactement, non. C'est-à-dire que c'est le clientélisme poussé, exacerbé, poussé à outrance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dire non. Il est si facile de dire oui, je te rendrai le service, moyennant sûrement un bon vote aux prochaines élections. Il faut les dire, les choses, il faut les dire tranquillement. C'est-à-dire que voilà où le bât blesse. Et nous sommes une petite communauté, c'est-à-dire 300 000 personnes.
Où tout le monde se connaît.
Une micro-société avec une population vieillissante qui ne s'intéresse plus trop à tout ce qui se bouge, tout ce qui palpite dans une région. Et donc, ça ouvre la porte à des appétits féroces, oui. Très féroces. Il n'y a qu'à voir le nombre d'assassinats qu'il y a en Corse, dont beaucoup sont liés, il faut le dire, sont liés à l'immobilier. C'est-à-dire qu'il y a, des enjeux colossaux. Il y a des enjeux colossaux.
Avec une demande touristique et de résidence secondaire extrêmement forte dans le sud. Enfin, je veux dire qu'il y en a un petit peu partout, mais si on va dans le sud, c'est un véritable bottamondain, quand on va.
Mais tout s'achète, tout se vend dans le sud. S'achète, tout se vend. Il n'y a plus de contrôle. C'est-à-dire que vous avez des quarantaines, des cinquantaines d'immeubles de résidences secondaires et autres qui se construisent pratiquement tous les jours.
Alors, Gérard Bonchrestieni, il faut quand même saluer le travail du Conservatoire du Littoral. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 20% de ce littoral qui est quand même maintenant sauvegardé. Ils font un boulot quand même qui est assez formidable. On n'est pas forcément dans du pastillage. Il y a aussi donc des grandes bandes vraiment entières qui sont protégées. Ça, c'est un des moyens. Ça veut dire qu'on achète du territoire pour pouvoir sauvegarder ce territoire ?
Tout à fait. Je pense que la politique du Conservatoire du Littoral, elle devrait s'amplifier. C'est vrai qu'il y a une crise économique, donc il y a moins de moyens. Mais 18 000 hectares de protéger sur 1000 km de côte, ce qui représente 20%, c'est bien. Il faut que ça continue. La stratégie du Conservatoire du Littoral à l'horizon 2050 prévoit beaucoup d'acquisitions. Il faut savoir aussi que beaucoup d'acquisitions ont été faites sur des terrains qui appartenaient à des grands groupes financiers qui avaient acheté dans les années 60 à des prix tout à fait dérisoires. Et compte tenu le climat qui régnait en Corse depuis quelques années, ils n'ont pas pu construire et ils ont refilé ça au Conservatoire du Littoral. Dans des communes qui ont connu une forte pression immobilière telle que le sud de l'île et même, je pourrais même dire, la Balagne, le Conservatoire du Littoral, on ne peut pas dire qu'il a fait des grandes acquisitions. C'est-à-dire que, bon, il peut mieux faire.
Oui, Antoine Orsini, non, c'est pas sur ce thème ou
de littoral. Oui, bon, moi je ne veux pas être prétentieux, mais je crois que j'ai la solution. J'ai la solution.
Oui.
Appliquons la loi en Corse. Oui. Appliquons la loi. Lois et règlements, règlements européens. Appliquons la loi. La loi montagne, la loi littorale. Interdire les déchets, condamner les maires des communes qui ne traitent pas leur eau. Parce que on peut se dire, allez, on va réfléchir à des solutions. Mais aujourd'hui, le dispositif réglementaire, il est tellement vaste. Avec les, je vous dis, les règlements européens, hein, les directives. Hein, on ne parle pas de règlements, mais de directives européennes. Les nitrates, les phosphates.
Il faut des moyens et une volonté politique de l'appliquer.
Voilà. Appliquons d'abord. Alors, c'est vrai, je ne veux pas condamner le maire d'une petite commune. Je n'ai pas dit le petit maire, hein. Ils peuvent être grands par la taille et par l'esprit, mais dans les petites communes, ils n'ont peut-être pas l'argent pour financer une station d'épuration et donner de l'eau potable. Hein, parce que si vous voulez, on peut parler aussi d'eau potable ou d'eau non potable pour 40 000 personnes dans les villages d'intérieur. Donc, mais si on applique la loi, je vous garantis que l'environnement ne sera que protégé.
Tenez, cette petite pastille.
Pensando a quella libertà. C'est ça ce qui est important pour les Corses, l'espoir et la liberté.
Je comprends bien, c'est magnifique, mais il est quand même plus de 2h du matin.
Moi... Obé, serre un verre de myrte.
Non, c'est aimable, mais c'est un peu tard pour le digestif. Là.
Quoi? Vous nous refusez le verre de l'amitié?
Non. Mais alors avec beaucoup de glaçons.
C'est de mon amour, ces petites émissions qui respirent sur France Inter.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Voilà, et donc toujours en direct de ce Festival du Vent avec nos amis pour parler de l'environnement en Corse. On pourrait faire 2-3 émissions parce que beaucoup de... Mais dans ce que vous dites aussi, on retrouve nos amis qui peuvent nous écouter, même dans les Vosges. Allez, hop, en Ile-de-France, sur d'autres littoraux, peuvent aussi se retrouver donc à travers vos propos. Alain Baraton est venu, il nous a parlé merveilleusement de jardinage, on s'en doute bien. Et alors, parlez-nous quand même, cher Alain, d'un arbre ou d'un végétal qui vous plaît particulièrement ici. Vous avez une passion pour quoi ?
Oui, non loin d'ici, j'ai aperçu un arbousier. J'ai une passion pour les arbousiers, déjà pour les fruits qui, paraît-il, donneraient une confiture extraordinaire. Là, je doute. Mais surtout, j'aime beaucoup l'arbousier car c'est une plante qui tapisse merveilleusement bien les forêts, qui résiste assez bien aux incendies et qui, surtout, ne réclame pas beaucoup d'eau. Alors aujourd'hui, où l'on parle d'économiser l'eau du ciel et l'eau du robinet, planter intelligemment en plantant un arbousier me semble l'une des solutions pour avoir un jardin tout en économisant.
Mais puisque nous feuilletons aussi régulièrement l'actualité avec vous, en revanche, je n'ai pas de passion pour la TVA à 5,5% sur les pesticides.
Je trouve incroyable aujourd'hui qu'en France, que les grands groupes profitent d'un taux réduit de TVA. Je pense bien évidemment à tous ces groupes qui vendent des désherbants et des pesticides à l'agriculture. Vous savez, il faut savoir que ces produits rentrent très peu dans le coût de finition d'une denrée alimentaire. Ce qui veut dire que si demain cette TVA était appliquée à un taux normal, le consommateur n'en souffrirait pas beaucoup et l'agriculteur peut-être pas. Alors, à qui profite le crime? Pourquoi ces groupes gigantesques qui ont, par exemple, pour nom Monsanto bénéficient-ils d'autant d'avantages? On est en droit de se poser des questions, tout comme nous parlions de la bétonisation des côtes, non pas encore, mais peut-être à venir en Corse. Eh bien, à qui a profité la bétonisation de la Côte d'Azur? Il serait peut-être bon de temps en temps de se poser la question, parce que je suis quand même étonné que l'on parle emploi, que l'on parle environnement et que l'on continue de batailler simplement pour garder un espace naturel. Le monde, la France est tombée sur la tête.
Alors, lorsque l'on parle du... Vous voyez que vous avez des adhérents là aussi, c'est formidable. Lorsque l'on parle par exemple très très vite du plan éco-phyto, c'est-à-dire il s'agit de réduire de 50% les pesticides d'ici 2018, vous vous dites, allez, 2018, oui, mais on est bientôt en 2012.
On est bientôt en 2012. Quand il faut réduire la vitesse, on installe un radar et le flash est immédiat. Pourquoi systématiquement attendre des années avant de prendre des mesures d'utilité publique? Il était question il n'y a pas longtemps d'interdire un produit phytosanitaire, un pesticide, pardonnez-moi. Eh bien, la date d'utilisation a été prolongée simplement pour écouler les stocks. C'est absolument abject.
Miguel Arthus Bertrand, très vite.
Un grand merci. Karina Rue et Serge Rue qui tiennent ce festival à bout de bras.
Eh ben oui,
merci à eux. Parce que
on les applaudit.
Voilà. C'est de mieux en mieux chaque année.
Moi, je tiens à saluer véritablement le courage de Gérard Moncristiani, qui est président de cette association Libre Accès aux Plages et à la Défense du Littoral. On n'a pas épuisé le sujet. Merci à Maria Guidicini. À vous, Antoine Orsini. Peut-être un tout petit mot peut-être de ce qui évolue bien, d'espoir, mais vraiment très, très court, malheureusement, de ce qui évolue bien aussi en Corse.
Non, moi, je crois à la recherche. La Corse a une université qui doit jouer un rôle important dans la recherche de solutions novatrices. Et tout à l'heure, vous parliez d'arbres adaptés à la sécheresse. Il faut que nos architectes autour des maisons plantent des arbres qui ne demandent pas d'eau. Donc ça, c'est simple. En plus, ce sont des arbres arbres locaux et pas faire appel aux espèces exogènes.
Écoutez, un grand merci à vous. Merci à vous, cher public ici présent. Merci à Stéphane Guinicini de Frequenza Mora ainsi que Simon Guérini et Didier Bautier à la technique, à nos amis qui sont aussi à Paris, à Valérie Ayestaraï, notre réalisatrice, à Stéphane Combe, notre assistant. Denis Chessou, je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. On va aller, je pense, récolter des châtaignes. Vous verrez, bon, c'est pas dans la Castanitch, mais ce sera dans les Cévennes. Anne Gouzon a rempli les sites de cette émission. Je vous retrouve avec grand plaisir demain à 19h54 après les petits bateaux pour la Tulu Mon Petit Loup, et dans quelques instants, eh bien, ce seront les liaisons heureuses de Colombe Schneck.